The Hockey News qui a positionné le Canadien comme étant l'équipe qui a connu la meilleure saison morte jusqu'ici dans la Ligue nationale de hockey. Et on reçoit l'émission Marco D'Amico pour faire un classement, son classement à lui, d'un top 5 des équipes s'étant le plus amélioré durant l'entre-saison. Marco, comment tu vas?
Très bien, et toi?
En pleine forme, Marco. Content de te recevoir encore une fois à l'émission. Tu seras également avec nous mercredi et vendredi. Et j'ai très hâte de t'entendre dans le prochain segment parce que, évidemment, le Canadien a eu une bonne saison morte jusqu'ici. Mais je voulais ton classement à toi, ton top 5 à toi des formations pour la saison morte dans la Ligue nationale. Et je veux débuter avec les mentions honorables avant de commencer avec le numéro 5. Quelles équipes as-tu placées dans les mentions honorables comme équipe qui a connu une très, très bonne saison morte dans la Ligue nationale?
Ouais, je vais être clair avant qu'on commence parce que tu viens de faire deux choses différentes. On parle des clubs qui ont fait les meilleurs coups et pas nécessairement ceux qui se sont améliorés le plus. Deux choses différentes.
Ouais.
En termes de mentions honorables, je regarde le Mammoth de Utah.
Ouais.
On regarde la transaction avec J.J. Peterka, tout un élément ajouté à leur top 6. Vraiment un game changer pour ce club-là qui cherche vraiment un peu plus de buts. Ce n'est pas toujours être Dylan Gunther qui est le marqueur naturel. Tu as besoin de plus que ça. Et donc, aller chercher un joueur qui était quasiment un point par match à Buffalo, c'est très intéressant. Ils ont aussi ajouté certains vétérans, dont Nate Schmidt, qui viennent juste de gagner la Coupe. Donc, on commence beaucoup à greffer beaucoup plus de talent à ce noyau. Et je crois que ça va être une équipe à surveiller cette année dans l'Ouest pour les séries.
Il y a également les... Ouais. Non, je te laisse poursuivre.
Après, ouais, c'est ça. Après eux, c'est un peu de l'amélioration, mais aussi globalement, je pense que les Rangers de New York et les Ducks d'Anaheim ont fait du bon boulot pour ce qui a trait, même si ils ont échangé ensemble, pour ce qui a trait de leur avenir. Si tu regardes les Rangers, être capable de se départir du contrat de Chris Kreider est un gros move, selon moi. C'est quand même beaucoup d'argent qui ont pu enlever de la masse. Et j'y trouve qu'ils ont quand même bien fait avec la transaction qui est André Miller, un choix de 1, un choix de 2 et Scott Moreau qui se joint au groupe. Et ensuite, la signature de Vladislav Gavrikov, je trouve que c'est un bon mélange pour eux en termes de se donner un peu de flexibilité sur la masse salariale, ce qu'ils n'avaient pas à pareille date l'année passée, et aussi l'opportunité de certains autres jeunes de se greffer une place, disons, plus importante dans l'alignement, dont Alexis Lafrenière, qui, lui, vraisemblablement, va jouer sur le premier trio cette année. Donc, beaucoup de positifs là-dessus. Dans leurs années, c'est l'année centenaire des Rangers aussi, donc à surveiller avec les transactions d'ici la fin de l'année. Et on regarde les Ducks d'Anaheim, je pense qu'ils ont très bien amélioré autour de l'équipe. On ne va pas parler de l'embauche de Quenneville comme entraîneur, on verra qu'est-ce que ça va donner ça. Mais d'aller chercher des vétérans comme Chris Kreider, Mikael Granlund, ça l'aide beaucoup un top 6 qui avait besoin d'un peu plus de talent et un peu plus de muscles. Et donc, je crois que ça va bien entourer les jeunes McTavish et Leo Carlson et leur permettre vraiment d'apporter une nouvelle dimension à leur jeu.
Ouais, et dans le cas des Ducks d'Anaheim, on attend toujours aussi la signature d'un gars comme Mason McTavish avec l'organisation et d'en arriver à une entente entre Pat Verbeek et le clan de McTavish. Qui as-tu placé comme numéro 5 dans ton classement?
Numéro 5, initialement, j'avais les Ducks d'Anaheim.
Ouais.
C'était pas mal ça, mon club, mais j'ai parlé d'eux en même temps des Rangers parce que il y a eu plusieurs transactions durant l'année et aussi durant la saison morte qui ont connecté les deux clubs. Donc, on a déjà parlé des Ducks. Celui qui suit après ça, je mettrais les Golden Knights de Vegas. Je pense que la transaction qu'on a vue par rapport à Mitch Marner était une excellente transaction. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un peu de brouhaha dans l'arrière-plan? Est-ce que les Knights ont fait de quoi d'illégal pour essayer de séduire un Mitch Marner avant qu'il puisse arriver au 1er juillet? Ça, je pense que ça va être un mystère pour un petit bout. Mais ceci étant dit, ils sont allés chercher un joueur de 100 points en échange de Nicolas Roy. Donc, c'est un excellent échange pour eux. Ils le signent pour 8 ans à un salaire qui risque de bien vieillir avec le fait que le cap salarial monte autant. et vraiment se sont positionnés maintenant pour être un club qui va être capable de compétitionner d'année en année. Juste à surveiller le contrat, la signature de contrat de Jack Eichel cette année. Et si tout va bien, ça va être une puissance pour un très bon bout.
T'attends à quoi comme saison pour Mitch Marner? A connu sa meilleure production offensive la saison dernière, 102 points en 81 matchs. Dans son cas, en séries éliminatoires, ça a toujours été un peu plus compliqué. Tu t'attends à quoi comme première saison pour Mitch Marner, qui va vraisemblablement jouer sur le premier trio avec Jack Eichel?
Ouais, je m'attends à deux saisons de 100 points de chaque joueur. Je sais que c'est beaucoup à demander, là, mais Jack Eichel, tu sais, Mark Stone est souvent blessé, un peu ralenti dans ce contexte-ci, mais de le mettre avec un gars comme Mitch Marner, il y a des flammèches qui vont se donner. Ça va être que du feu, spécialement dans la division dans laquelle il joue. C'est ce genre de talent, de rapidité-là qui va faire en sorte que ce duo-là risque de causer beaucoup de dommages, spécialement avec le fait que Jack Eichel, son jeu défensif, s'est beaucoup amélioré depuis son temps à Buffalo.
En troisième position, Marco, tu as les Hurricanes de la Caroline.
Ouais, mais les Hurricanes de la Caroline, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, parce qu'ils se devaient de faire quelque chose cet été. Ils ont fait plusieurs choses, ce que j'ai aimé. C'est pas nécessairement juste les acquisitions. Donc, la grosse acquisition était Keandre Miller. Ça, c'est certain que cette transaction-là, je pense que je l'ai aimé pour les deux côtés. Les Rangers, comme la Caroline. La Caroline qui était agressif, pour aller le chercher. On a vu quasiment une offre hostile dans leur cas, mais à la place, ils se sont contentés sur une transaction hockey qui aide beaucoup la Caroline parce qu'ils ont perdu plusieurs défenseurs cet été comme agents libres. Oui, Dmitri Orlov et Brent Burns étaient plus vieux, mais ça occupait quand même beaucoup de place dans l'alignement et donc d'être capable de les remplacer est une bonne chose. Mais je trouve aussi les signatures de Logan Stankoven et de Jackson Blake étant excellente pour l'organisation qui, alors que tous les agents libres avec restrictions se regardent présentement pour savoir qui va flancher en premier et signer leur nouveau contrat, eux autres n'ont pas eu peur, ont signé à long terme à des montants assez raisonnables. Et maintenant, je crois que la Caroline est bien placée pour continuer de greffer certains joueurs à leur noyau pour être compétitif pour encore des lunes.
Rappelle-toi, après les séries éliminatoires l'an dernier, les Hurricanes qui ont encore une fois perdu en finale d'association l'an dernier, cette fois contre les Panthers de la Floride, et Rod Brind'Amour qui disait en point de presse: j'ai l'impression que les Panthers ont copié notre style de jeu. Mais entre les lignes, il disait qu'il y avait plus d'éléments offensifs, plus de talent avec le même système de jeu pour compétitionner. Est-ce que pour toi, l'acquisition d'un gars comme Nikolaj Ehlers, c'est assez pour les Hurricanes pour qu'on accède à la prochaine étape, et c'est-à-dire une finale de la Coupe Stanley? Parce que ça a été très compliqué dans les dernières années lorsqu'on a atteint la finale d'association.
Ouais, c'est certain qu'un gars comme Nick Ehlers va beaucoup aider durant la saison régulière. Je pense que le gros trou, encore une fois, se trouve au centre. Quand tu compares à une équipe comme la Floride, c'est toute une ligne de centre, que ce soit le premier ou le quatrième trio. Même le 13e attaquant qui va jouer au centre serait un joueur à tous les jours avec les Hurricanes de la Caroline au centre, parce qu'eux autres, présentement, leur deuxième centre, c'est Jesperi Kotkaniemi, qui laisse beaucoup à désirer en ce moment depuis son acquisition. Ça fait en sorte que c'est vraiment leur faiblesse. Le reste de l'organigramme semble assez complet et je crois qu'en allant chercher un gars comme Nick Ehlers, jouant de l'autre côté d'un gars comme Logan Stankoven, mais ça vient mieux bâtir ton deuxième trio. Et là, que ça soit Kotkaniemi, une transaction durant la saison pour un autre centre, ça fait en sorte que n'importe quel joueur qui va rentrer dans cette situation-là va rentrer dans une très bonne situation, une situation qui va leur permettre de bien jouer dès le début. Et je crois que rendu en série, ils vont avoir une certaine profondeur pour être capable de tenir le bout. Mais encore une fois, tenir le bout contre la Floride, ça va être un peu difficile, puis on va en discuter dans 5 secondes.
Ouais, on va en parler dans très 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 bientôt. Je vais laisser patienter un peu les auditeurs. Quand je regarde le classement, Marco, de la division métropolitaine l'an dernier, les Hurricanes ont terminé deuxième derrière les Capitals de Washington. Est-ce que tu vois encore les Hurricanes terminer très très haut dans leur division? Les Rangers, ça a été décevant la saison dernière. Les Blue Jackets de Columbus ont cogné à la porte des séries éliminatoires, ont passé très très près de se qualifier. Les Devils, ça a été plus compliqué aussi la saison dernière, mais ont fait les séries quand même. Est-ce que tu vois les Hurricanes terminer encore très très haut dans la division?
Tout dépend selon moi de tout ce qui tourne autour des blessures. Les Devils du New Jersey se font absolument démolir à chaque année à cause des blessures.
Vrai.
Dougie Hamilton et Jack Hughes n'ont vraiment pas de chance dans ce département-là. Et donc, ça l'affecte beaucoup un club quand tu perds ton centre et défenseur numéro un. Donc, si sont capables de rester en santé, je regarde les Devils comme un club en série. Je regarde les Hurricanes certainement comme un club de série. Et je regarde aussi les Capitals de Washington comme un club de série. Vraiment, le club pour moi à surveiller, les deux clubs dans la métropolitaine seraient les Rangers et les Blue Jackets. Parce que les Rangers, spécialement avec le contrat de Artemi Panarin, il y a beaucoup de potentiel de voir une espèce d'exode à la fin de l'année de certains joueurs. Un peu comme on a vu à Montréal à la fin de leur année centenaire en 2009, où ce que, plusieurs agents libres sont partis et d'autres sont venus lors du 1er juillet 2029, 2009. Donc, je regarde un peu la situation similaire. Je crois que, vu la situation, Columbus est en pente ascendante avec les jeunes qui progressent, spécialement Adam Fantilli, d'ailleurs, qui, lui, va vraisemblablement signer un nouveau contrat dans les prochains mois. Donc, c'est un club populaire, vous direz, les Blue Jackets. Donc, pour moi, ça serait à eux de surveiller. C'est entre ces deux équipes-là que ça va se lutter. Et ensuite, tout dépend de qu'est-ce qui va sortir de la division Atlantique.
Kirill Marchenko, Adam Fantilli, Ken Johnson, Denton Mareschuk. Je regarde la formation des Blue Jackets de
Continue.
Columbus.
Caden Lindstrom,
Caden
Ken
Lindstrom.
Johnson, ça continue, là.
Il y a une belle relève qui s'en vient avec les Blue Jackets de Columbus. J'ai même pas parlé de Voronkov aussi, qui a été très très bon la saison
C'est ça.
dernière pour les Blue Jackets. The Hockey News qui place le Canadien comme étant l'équipe ayant connu la meilleure saison morte dans la Ligue nationale. On fait le même exercice avec Marco D'Amico d'RG Media. Position numéro 5, Marco avait les Ducks. À la quatrième position, Vegas. Et troisième, Caroline. On est maintenant rendu à la deuxième position, Marco. Et tu y vas avec le
Ah, moi,
Canadien.
j'y vais avec le Canadien.
Canadien numéro 2. Explique-moi pourquoi.
Ouais. Ben, écoute, je crois que le Canadien sont l'équipe qui se sont améliorées le plus cette année. Ça, c'est garanti. Mais en termes de boulot, on va en parler le club en premier, là, mais avec ce qui touche le Canadien, je pense qu'ils ont bien amélioré leur alignement. Il y a beaucoup plus de travail en tant que tel. Mais quand on regarde les bons coups, je pense que la transaction de Noah Dobson, en termes de prix payé pour, je pense que c'est une très bonne transaction. On regarde la transaction de Zachary Bolduc et Logan Mailloux. Je trouve que c'est une belle transaction de hockey que les deux clubs vont bénéficier. Mais encore une fois, tu n'as pas nécessairement eu le besoin le plus flagrant qui a été. Puis on parle à ce jour. Ça se peut aussi que le Canadien, d'ici 5 semaines, 6 semaines, 2 mois, 3 mois, finit par faire la transaction pour un deuxième centre ou pas. Mais entre-temps, ils sont allés chercher un défenseur numéro un droitier et un ailier à potentiel top 6 qui pourrait peut-être même jouer dans le top 6 de façon régulière à un moment dans cette saison-ci. C'est quand même deux bons ajouts, mais ça reste dans le contexte deux bons ajouts. Ça vient pas vraiment confirmer une coupe à long terme. Il y a quand même du pain sur la planche et c'est un excellent été. Je dis absolument bravo en termes d'acquisition. En termes de clubs qui ont fait des échanges, le Canadien, selon moi, c'est le mieux amélioré côté échange dans cette ligue. Mais pour comparer ce que le Canadien a fait au travail qu'a fait Bill Zito en Floride cet été, c'est un peu difficile de comparer un et l'autre parce que un est en train de construire et bâtir un club pour gagner une Coupe Stanley. Je pense que le travail le plus difficile dans cette ligue-là, c'est de garder une équipe de Coupe Stanley ensemble. Et c'est le miracle qu'a pu faire Bill Zito cet été. Oui, il y a l'aspect taxe, mais il y a aussi l'aspect culture d'équipe et vraiment ce club-là se tient vraiment ensemble. Tu regardes les signatures qu'ils ont faites avec Sam Bennett, Aaron Ekblad, Brad Marchand, Tommy Nosek. Je pense que c'est vraiment excellent ce qu'ils ont fait pour le futur et je trouve qu'ils se sont bien positionnés pour être compétitifs encore pour 2, 3, 4 saisons. Au top de la division Atlantique. Et un tel travail comme ça, d'habitude, ne se voit pas. On voit rarement des clubs garder ces éléments-là en place. On regarde l'Avalanche de Colorado, quand ils ont gagné la Coupe, ils ont perdu Nazem Kadri immédiatement. On regarde le Lightning de Tampa Bay, ils ont perdu beaucoup d'éléments de leur groupe. Mais là, si tu regardes les Panthers de la Floride, le noyau est ensemble pour un minimum d'un autre 3 ans, on verra qu'est-ce que ça va donner l'état de santé de Brad Marchand quand il va avoir 40 ans. Mais outre lui, tout le monde est signé. Et c'est vraiment de bon augure pour eux parce que c'est un travail colossal qu'a fait Bill Zito, même s'il travaille dans des situations économiques, disons, un peu plus avantageuses côté taxes. Il a su comment prendre avantage en mettant plus de bonus de signature devant du contrat, en faisant une espèce de grille de salaire et en mettant un gars comme Sacha Barkov au top et que tout le monde suit après ça. C'est intéressant comment qu'ils ont bâti ces cultures-là et ça démontre vraiment qu'est-ce qui arrive quand il y a du buy-in de ton club. Le Canadien, on a vu ça cette année, tu as des jeunes qui se sont vraiment laissés accroire la culture du Canadien puis qui ont vraiment acheté la culture du Canadien. Tu vois d'autres joueurs qui veulent acheter la culture du Canadien, dont Noah Dobson, qui a demandé de venir à Montréal. Donc, je trouve que c'est une bonne de les avoir un et deux. Et c'est très. Ça se suit en termes de logique parce que je crois qu'éventuellement, pour que le Canadien soit compétitif à long terme, ça va prendre des étés comme ceux qu'on a vus en Floride cette année et l'année d'avant.
Même si on sait que Kent Hughes a tout fait là, pour faire l'acquisition d'un autre joueur de centre, était dans toutes les discussions
Oui, absolument.
possibles pour s'améliorer à la position de joueur de centre, est-ce que tu classes le Canadien 2 et les Panthers 1 parce que le Canadien n'a pas été en mesure d'améliorer son besoin le plus urgent?
Ouais, quand je regarde pour moi, comme sortir d'un été gagnant, c'est à quoi ton équipe a l'air en début de saison. Comme quand tu arrives en début de saison, je sais que Matthew Tkachuk, lui, va être blessé, absolument. Mais quand tu regardes la mission quasi impossible, moi, je trouve que c'est quasiment impossible de signer un défenseur de première paire droitier, un Brad Marchand, et aussi le gagnant du Selke, excuse-moi, pas le Selke, le gagnant du MVP des playoffs,
Ouais.
le Conn Smythe. Donc, c'est de signer ces trois gars-là en dessous de 20 millions, c'est quasiment impossible. Et la Floride a su faire ça. Tandis que ce que le Canadien a fait est très important. Il n'y a pas un autre club de la Ligue nationale qui se sont améliorés côté transaction comme ils l'ont fait. Mais dans un ère de cap salarial, c'est aussi difficile de garder ton noyau ensemble à long terme que de le bâtir, selon moi. Et je dirais, c'était encore plus difficile dans un ère où on savait que le cap salarial restait plat. Maintenant qu'on sait que ça augmente, peut-être on ne verrait pas vraiment autant de misère, spécialement pour les clubs qui sont capables de dépenser. Mais quand tu regardes dans le contexte ce que les Panthers ont fait, c'est vraiment époustouflant parce qu'on n'a jamais vu un DG être capable de garder un noyau ensemble dans cette ère du cap salarial pour aussi longtemps.
Ah, t'as entièrement raison. Moi, je me rappelle de l'édition 2010, notamment des Blackhawks de Chicago, où on a
C'est ça.
perdu tellement d'éléments par la suite. On a été en mesure d'aller chercher d'autres coupes en 2013 et 2015, mais on avait perdu beaucoup d'éléments en 2010 après la conquête. Et c'est très difficile de devoir garder les joueurs les plus importants de ton noyau au sein de l'organisation. Je veux finir, Marco, en te posant notre question du jour. Il y a 3 ans, Kent Hughes faisait l'acquisition de Sean Monahan des Flames et recevait en plus un choix conditionnel de premier tour en 2025. Ça nous a inspiré la question suivante. Depuis l'embauche de Kent Hughes, quel a été son meilleur coup via transaction? Est-ce que c'est le dossier Sean Monahan avec la transaction des Flames par la suite pour le redonner aux Jets de Winnipeg en retour d'un autre choix de première ronde? Est-ce que c'est l'échange d'Alex Carrier contre Justin Barron, l'échange Patrick Laine? Ou si tu y vas avec une autre transaction comme Dobson, Bolduc, celle de Kulak qui a mené à ce choix de deuxième ronde et la sélection de Lane Hudson, ou bien même celle de Mike Madison avec les Penguins de Pittsburgh?
En termes de valeur pure,
Ouais.
je dois dire que l'échange Kulak contre un choix de deux et d'autres éléments qui a donné Lane Hudson
Exact.
est probablement celui qui, en termes de valeur pure, qui vaut le plus en ce moment. Oui, quand tu regardes la transaction de Monahan, ou excuse-moi, les transactions de Monahan, parce qu'il y a eu l'acquisition et ensuite l'échange.
Exact.
Ça l'a apporté avec d'autres éléments. Ça l'a apporté la sélection de Michael Hage et aussi l'arrivée de Noah Dobson. Mais il y a d'autres éléments, il y a d'autres échanges qui rentrent dans cette arbre d'échange-là. Quand tu regardes la transaction Kulak, on peut carrément dire que Thomas Plekanec est lié à Lane Hudson. Si tu regardes vraiment
l'arbre de la transaction,
les échanges. Donc, c'est pour moi, en termes de valeur pure organisationnelle, tu as échangé un défenseur, un très bon défenseur de troisième paire contre un défenseur qui va être un défenseur élite, un des 10 meilleurs défenseurs dans son prime dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, c'est directement ceci. Si tu mets en valeur tout ce que Monahan a apporté aussi hors glace, là, je peux comprendre le leadership qu'il a apporté aussi, pas juste de côté transactionnel, mais si on parle de juste valeur pure, pour moi, vraiment, la transaction et aussi, je veux dire, le travail de l'équipe de recrutement amateur du Canadien de Montréal à avoir le sang-froid de laisser un Lane Hudson glisser jusqu'à 62e pour ensuite aller le chercher, y a des livres qui s'écrivent là-dessus.
Ouais.
Mais pour moi, la transaction de Sean Monahan côté stratégie a été la meilleure de Kent Hughes et de loin.
Ouais, de prendre son contrat à ce moment-là, de recevoir en plus comme compensation un choix de première ronde et de le transiger un an et demi plus tard pour obtenir un autre choix de première ronde. Et il faut dire, le 2 février 2024, quand Monahan a pris la direction de Winnipeg, de recevoir ce choix de conditionnel de premier tour au repêchage de 2024 qui est devenu Michael Hage parce que le Canadien s'est avancé au repêchage pour le sélectionner. Je veux dire, puis en termes de leadership aussi dans le vestiaire, d'avoir l'expérience d'un gars comme Monahan pendant un an et demi au sein de ton organisation, ça a été un grand coup de la part de Kent Hughes. Marco D'Amico d'RG Media, un gros merci pour ton temps et on se reparle mercredi 15h.
Un gros plaisir. Bonne journée tout le monde.
Bonne journée. Marco D'Amico qui était avec nous pour faire son top 5 dans la Ligue nationale pour cette saison morte pour les équipes.